Le grand 8 du week-end, entrepreneur.
Entre Première, donc, le magazine économique de La Première, réalisé en collaboration avec La Libre. C'est donc le tout premier numéro de l'année 2015, un numéro tout à fait spécial. Nous allons parler de l'économie, bien sûr, mais de l'économie surtout de manière prospective pour cette année, voire au-delà. Alors, nous avons deux invités. En studio avec nous ici à Bruxelles, Roland Gillet, qui est professeur à la Sorbonne, également à la Sauvé Bruxelles School. Bonjour, monsieur Gillet.
Bonjour.
Et puis, en duplex depuis Rennes, en Bretagne, et nous remercions d'avoir rejoint le studio, Paul Jorion, qui est à la fois anthropologue, sociologue, également économiste. Bonjour, Paul Jorion.
Bonjour.
Et pour mener le débat avec moi, nous avons Vincent Slitz, qui est chef du service économique de La Libre. Et Vincent, je vous laisse la parole pour commencer le débat.
Oui, peut-être une première question hein, pour ouvrir ce débat. On file tout droit vers des élections législatives anticipées en Grèce. Alors, risque-t-on de revivre une crise de la dette en Europe? Et cette situation est-elle finalement dangereuse pour les Grecs ou pour l'ensemble de la zone euro, monsieur Gillet?
Dangereuse pour les Grecs, certainement, parce qu'ils ont toujours le problème évident que leur dette est libellée en euros. Donc, quand on parle de sortir la Grèce de l'Europe ou que des décideurs politiques un jour menés par les extrêmes y arriveraient, je ne suis pas sûr qu'ils seraient mieux lotis. Par contre, au niveau de la gouvernance européenne, de voir qu'on patauge et on continue à patauger avec ce problème qui reste important, ça, c'est ça qui me fait peur. Parce qu'aujourd'hui, à part de dire les Grecs ont mal géré ou n'ont pas su faire ce qu'on leur a demandé, et ce qu'on leur a demandé était dans un contexte de ralentissement économique généralisé, y compris pour les plus forts de la zone euro, ça me paraît insuffisant comme explication à donner à des gens qui aujourd'hui, pour beaucoup, et notamment les pensionnés, vivent avec 454 euros ou 58 euros par mois, et donc se nourrissent pendant 18 jours par mois. Et donc, si on ne veut pas un jour courir une vraie insurrection, ce qui serait encore beaucoup plus dommageable, il est temps que l'Europe prenne ses responsabilités également.
Paul Jorion, la Grèce, à votre avis, c'est un échec particulier, si je puis dire, ou c'est le symbole d'une Europe qui ne fonctionne pas, d'une zone euro qui ne fonctionne pas comme elle devrait?
Il y a deux choses. Il y a d'abord qu'on a fait entrer la Grèce en sachant qu'elle ne respectait pas les conditions pour entrer au sein de la zone euro pour des raisons politiques, en se disant tout ça va s'arranger, et on a laissé la Grèce faire un arrangement avec Goldman Sachs, un faux swap de change pour lui permettre de cacher la situation dans laquelle elle était. Alors on continue de payer les conséquences de ça. Hein. Quand on triche, la triche se répand et finit par avoir des conséquences. Ceci dit, la Grèce n'est pas particulièrement responsable de la situation dans lequel on est. On a une zone euro, on a une monnaie qui est fondée sur un système fédéral, et ce système fédéral n'a jamais eu lieu. On est dans un système semi-fédéral avec pas d'unification au point de vue fiscal de l'ensemble de la zone, pas véritablement d'autorité pour décider ce qu'il faut faire. Alors c'est M. Draghi qui intervient de temps en temps, qui s'impose comme un pseudo-président de l'Europe, ce qui met M. Weidmann à la tête de la Bundesbank de mauvaise humeur, etc. On a une structure qui ne correspond pas à ce qu'il fallait faire. Alors, on a un système qui marche à moitié parce qu'on ne l'a construit qu'à moitié.
Oui, mais justement, vous citez Mario Draghi, mais est-ce qu'on ne peut pas dire heureusement qu'il est là quand même, puisqu'il n'y a rien d'autre en termes de gouvernement européen?
Monsieur Weidmann a raison de dire qu'on ne peut pas laisser à l'un ou à l'autre, un jour ou l'autre, de s'imposer et de parler comme s'il était le président de l'Europe. Il faut qu'il y ait une structure qui existe véritablement là. Ce n'est pas aux uns ou aux autres, en fonction de rapports de force, que ça doit se décider. Sinon, on a comme en Chine antique, on a des seigneurs de la guerre. Et Weidmann à la tête de la Bundesbank va prendre une décision un jour et l'imposer à tout le monde. Un autre jour, ce sera M. Draghi. Un autre jour, ce sera M. Juncker. Non, il faut une structure. Les États-Unis l'ont bien montré. On peut avoir un dollar qui correspond à un très, très grand pays, qui fonctionne même plus ou moins comme monnaie de réserve. Mais on ne peut pas avoir une monnaie qui correspond à 18 pays sans avoir une structure qui unifie tout ça derrière soi. Alors oui, maintenant, on y va petit à petit. On va avoir une structure avec un fonds de réserve, etc. Mais on n'y est pas encore. Et tant qu'on n'y sera pas, eh bien, on aura un système qui sera d'une fragilité extraordinaire. C'est ce qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire que le moindre éternuement quelque part, c'est-à-dire une élection ici ou là, ou quelqu'un qui dit quelque chose, va rendre cette structure au bord du précipice.
Alors, M. Gillet, toutes les tentatives en 2014 de la Banque Centrale Européenne d'essayer de redynamiser l'économie européenne, on a vu la stratégie de baisse des taux n'a pas été très efficace. L'injection de liquidités aussi dans le circuit bancaire n'a pas non plus rencontré un grand succès. Que peut faire la Banque Centrale Européenne pour redynamiser l'économie européenne? On parle beaucoup de rachat de dettes. Est-ce que c'est ça qu'elle doit faire cette année?
Vous voyez, de nouveau, je pense qu'au niveau du financement, et Paul Jorion a dit effectivement que la Banque centrale parfois dirigeait les débats, mais je pense aussi que c'est parce que les politiques ne prennent pas toujours la main, et quand ils la prennent de façon assez timide, et d'un point de vue uniformisation fiscale, mais aussi au niveau du plan qui vient d'être décidé aujourd'hui, on voit bien les limites de la gouvernance européenne quand elle doit déposer vraiment en dehors de garantie, des montants sur la table. Et donc, ce que je crois réellement, c'est que la Banque centrale a fait tout ce qu'elle pouvait pour le financement, mais malheureusement, les États pensent que c'est par le financement, en tous les cas certains, qu'on réglera tous les problèmes. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'au taux auquel, non pas les États se financent uniquement, mais aussi l'économie réelle, il manque une dynamique, un moral, une cohérence, un cap qui doit être donné et qui inciterait alors à des gens à mettre non seulement leur énergie en termes de travail, mais également leurs capitaux propres, pas uniquement de l'endettement, on sait où ça nous a conduit, le surendettement, à le mettre sur la table pour essayer non seulement de s'enrichir, pas scandaleusement, mais avec une rémunération qui est justifiée par rapport au risque, et surtout derrière, qui créerait finalement de l'emploi.
Mais là, c'est un débat que vous entamez finalement sur le fameux sujet, d'un côté l'austérité, la rigueur budgétaire, et de l'autre côté la relance et une politique de relance. Alors, je voudrais vous demander tous les deux rapidement, Roland Gillet d'abord, il faut une politique de relance, mais là, on peut encore faire demi-tour et à dire tout à la relance. C'est votre point de vue, ça ?
Mais il faut certainement faire des éléments, en tout cas mettre en place des éléments qui donnent du moral aux troupes, ça c'est évident, mais tout en sachant qu'on a un carcan budgétaire dans lequel on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je crois qu'aussi, de toujours penser que les solutions indolores sont possibles et qu'elles peuvent ne toucher personne, même si il faut éviter évidemment de toucher les gens les plus faibles, ça me paraît un discours dépassé. Pareil sur la longévité de la vie aujourd'hui, qui fait qu'il y aura certainement des efforts à faire pour beaucoup de gens, pour travailler plus longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous d'accord. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'accord politique, il n'y a pas en Europe un cap, comme le disait Paul Jorion, comme on le trouve aux États-Unis. Et quand il n'y a pas de cap, le danger, c'est un peu une cacophonie et qui conduit finalement à ce que l'ensemble de la zone, même les plus forts, ont tendance maintenant à ralentir et on se rapproche de plus en plus d'un phénomène très ennuyeux, comme non pas tout de suite la déflation, mais une désinflation forte. Mais je crois qu'aujourd'hui, nos hommes politiques ne peuvent plus pas se fier uniquement sur les actions de M. Draghi, qui lui, sur le problème du financement, a fait tout ce qu'il fallait. Il a même été au-delà maintenant, puisqu'il sort, vous me posiez la question tout à l'heure, de tout ce qui est conventionnel au niveau de ses taux. Il va racheter déjà de la dette privée. Il veut bien prêter à l'économie réelle. Et en plus, comme il le dit, targeted, c'est-à-dire avec un vrai objectif d'aider les PME et l'activité réelle, à des taux très bas. Les banques ont des liquidités. Elles en ont, en Belgique, jusqu'à 255 milliards qu'elles utilisent déjà. Donc je pense que le problème du financement est adressé. C'est le reste qui manque.
Paul Jorion, votre point de vue par rapport à ça, est-ce que la zone euro est vraiment très mal embarquée aujourd'hui ? Vous êtes pessimiste par rapport à l'état de la zone euro ?
C'est-à-dire en 2008, les États-Unis ont compris dans une perspective, je dirais, pseudo-keynésienne, que le problème, c'était du côté de la demande. Le problème, c'est qu'il fallait faire en 2008, il fallait augmenter les salaires. Bon, je n'ai pas été le seul à dire ça, mais c'est absolument évident. Or, l'Europe a pris la voie exactement inverse.
On peut encore faire demi-tour ? On peut encore faire demi-tour ?
Bien entendu, mais on a perdu 7 ou 8 ans. C'est pas le moment de le faire maintenant, parce qu'effectivement, comme le disait M. Gillet tout à l'heure, on est à des situations dramatiques dans des pays comme la Grèce, comme le Portugal, d'une certaine manière l'Irlande. Il y aura tout ce qu'on devra remonter d'être descendu beaucoup trop bas. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça en Europe ? Pourquoi est-ce qu'on a fait cette politique ultra-libérale alors que les États-Unis montraient quand même la voie qu'il fallait prendre ? Et quand je dis la voie qu'il fallait prendre, c'était pas nécessairement ces injections massives de quantitative easing, de planche à billets, mais c'est plutôt d'essayer de reconstituer une force de travail dans le pays. Ce qui fait que les États-Unis vont bien maintenant, ce sont les 4% d'augmentation sur les salaires existants. Alors, il y a aussi des chiffres qui sont relativement bons sur la recréation d'emplois dans un contexte qui est un contexte difficile, parce qu'il y a énormément de remplacements du travail humain par du travail par la machine, mais pas seulement des robots, aussi des logiciels pour le travail intellectuel. C'est un contexte difficile pour recréer des emplois, mais ça repart aux États-Unis parce que le marché intérieur, le marché, le PIB, c'est 70% de la consommation intérieure et que les salaires augmentent. Or, moi je suis en France, je vous parle de France, M. Sapin a dit la semaine dernière, il ne faut surtout pas augmenter les salaires. On est encore nulle part, on n'avance pas du tout du côté de l'Europe.
Alors il faut une politique de relance pour redynamiser l'économie européenne. Il y a eu il y a quelques semaines l'annonce du plan Juncker qui va mobiliser 315 milliards d'euros pour relancer l'investissement en Europe. Est-ce que c'est un emplâtre sur une jambe de bois par rapport aux enjeux ? Votre avis, Roland Gillet ?
Mais je pense d'abord que c'est un pas dans la bonne direction. Par contre, je pense que M. Juncker, pour le peu de temps qu'il dirige la Commission, a bien compris que c'était là qu'il fallait frapper et plus uniquement sur les solutions, uniquement de financement. Il faut relancer manifestement au niveau de l'investissement. Par contre, en mettant les chiffres en place, il voit qu'il a 8 milliards au départ. Des 8, il grappille encore un peu dans ce budget, il en trouve 16. Et puis après, il est obligé de demander à la BEI 5 milliards de plus. Il a 21 milliards de garantie. Avec ça, il peut trouver sur le marché 63 milliards, 3 fois plus. Et puis après, il espère que fois 5, l'initiative privée, même s'il compte aussi sur les États, va pouvoir arriver à 315 milliards. Et il est obligé de le définir en disant à la fin que c'est sur 3 ans, donc ça fait une centaine de milliards par an. Mmh. Et il dit que dans le programme global, il a 75 milliards pour les PME. Divisé par 3, ça fait 25 milliards. Puisqu'on est en Belgique, ramenons ça à ce que les Belges ont sur leur livret d'épargne. Donc on va avoir un dixième des 250 milliards de ce que les Belges ont sur leur carnet d'épargne pour saupoudrer, je dis pas ce qu'on puisse dire autre chose, par an, les PME européennes. C'est bien entendu insuffisant. Par contre, est-ce qu'il ne fallait pas le faire? Bien entendu qu'il fallait le faire. Mais je pense qu'avec des éléments de chiffres aussi simples, à la fois les États européens vont devoir se rendre compte absolument que les chiffres sont trop bas. Et deuxième chose, et ça c'est beaucoup plus grave, c'est que vous avez entendu des chefs d'État le jour du sommet européen dire « moi je veux bien éventuellement apporter une contribution supplémentaire pour autant que ça irrigue mon propre pays ». Ce qui veut donc dire que si effectivement quelqu'un qui met 10 milliards et qui veut en avoir 12, puisque s'il s'agit de ça, il y aura des gagnants et des perdants. Or, on voudrait quand même de l'Europe qu'elle affecte ses montants à des investissements qui créent de la valeur de façon durable aux meilleurs endroits, pas chacun pour soi.
Paul Jorion, vous êtes aussi sceptique que Roland Gillet sur le plan Juncker ?
Oui, parce qu'effectivement, ce sont des chiffres insignifiants et c'est parce qu'on multiplie par tel facteur, par le fait que effectivement que la BEI va intervenir de telle et telle manière, qu'on arrive à un chiffre de 300 milliards qui représente effectivement très très peu de choses. Je crois qu'il faut se méfier chaque fois qu'on parle de pas dans la bonne direction, parce que si le pas est minuscule, on n'est pas à l'échelle des problèmes qui se posent. Et c'est une situation qui est difficile, pas seulement sur le plan économique et financier. On est dans un monde qui est en train d'épuiser ses ressources, on est en train de détruire l'environnement autour de nous. Il y a une situation qu'il faut prendre vraiment à bras le corps. Or, on fait des tout petits pas dans la bonne direction. C'est absolument insuffisant. Il faudrait, ça a été dit, c'était par M. Trichet, il y a pas mal d'années, il a dit, il faut absolument qu'on se rende compte de la difficulté du problème et qu'on agisse en fonction de la taille du problème. Or, il a dit ça, je ne sais pas, c'était en 2009-2010 et on est encore très loin de se rendre compte de la taille du problème.
Eh bien merci, on va faire une courte pause et on se retrouve directement pour poursuivre notre débat.
Jusqu'à 9h, le grand 8 du week-end sur la première.